Bonjour à tous et bienvenue sur Direct en jeu. Cette semaine, on a la chance d'être à la montagne, aux Carreaux. Alors, les Carreaux, je suis avec Philippe, qui est l'heureux directeur de l'Office de tourisme depuis maintenant presque 21 ans. Et il est toujours là, il ne s'ennuie toujours pas et il est toujours aussi dynamique. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors Philippe, qu'est-ce qui vous a amené ici aux Carreaux? Est-ce que vous êtes né aux Carreaux ou est-ce que vous êtes passé par ici pour une saison?
Eh non, je suis né là. En fait, la famille de mon père est originaire des Carreaux. Voilà, mes grands-parents étaient agriculteurs et éleveurs et avaient un alpage et ils faisaient la bisaisonnalité, c'est-à-dire que l'été, ils étaient avec les bêtes et au champ. Et puis l'hiver, ils travaillaient soit en remontée mécanique, soit à aider au niveau, à l'époque, au niveau de la charpente.
D'accord, donc c'est effectivement une station que vous connaissez depuis la plus tendre, j'allais dire, enfance. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de rester ici, d'en faire finalement, voilà, la carrière d'une vie?
En fait, j'ai eu deux métiers différents. Mon premier métier pendant plus de 10 ans a été de diriger des centres et villages vacances. Donc, on va dire que j'ai été dans beaucoup d'endroits de la France. Mais mon centre d'hiver était au Carreau. Et après, je suis à l'île d'Oléron, dans le sud, dans les Alpes-de-Provence. Voilà, c'est mon premier métier. Après, j'ai fait ça plus d'une dizaine d'années. Après, je suis revenu dans mon village natal parce que je pensais que j'avais des choses et des qualités à amener dans mon village. Donc, j'ai dirigé un service de la commune, qui était le service éducation jeunesse.
D'accord.
Donc voilà, donc le sport à l'école, le périscolaire, la garderie, les vacances l'été, voilà, également tout ce qui était cantine scolaire. On a mis en place le regroupement scolaire de l'ensemble des communes, puisqu'ils venaient à l'école au Carreau. Donc j'ai fait ça de 1996 à 2005. Et
D'accord.
en 2005, le directeur est parti à la retraite, et entre deux élections, le maire me dit: écoute, j'ai 6 mois jusqu'aux élections, je vais prendre un nouveau directeur, est-ce que ça te dirait? Et de 6 mois, on est passé à 21 ans.
Wow. Alors, on a dit qu'on ne parlait pas trop de politique aujourd'hui, mais effectivement, travailler ici à l'Office de tourisme au Carreau. Alors, les Carreaux, Philippe, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer un petit peu le contexte géographique? On est à côté de quelle station? Les Carreaux font partie donc du Grand Massif, 5 stations en tout, si je ne me
C'est
trompe
ça.
pas.
C'est ça, c'est tout à fait ça. Alors les Carreaux donc est relié au Grand Massif. Le Grand Massif, c'est 5 stations. Donc Sixt, Morillon-Samoin côté Giffre est relié avec les Carreaux et Flaine côté Arves pour constituer le Grand Massif. Le Grand Massif est surtout connu l'hiver
D'accord.
pour la partie ski. Et après, on va dire qu'individuellement, les communes comme Samoin, Morillon, les Carreaux et Flaine sont connues aussi individuellement côté été, mais moins le Grand Massif. Et ce Grand Massif et les Carreaux sont situés, allez, on va dire, à moins d'1 heure d'Annecy, moins d'1 heure de Genève, moins d'1 heure de Chamonix et une petite heure aussi de Courmayeur. Ce qui en fait une situation géographique très intéressante, accessible déjà de l'aéroport, 1 heure de l'aéroport, 1 heure 10 de la gare TGV de Bellegarde, mais aussi accessible pour aller, on va dire, visiter d'autres territoires à d'autres moments, que ce soit en hiver ou en été.
C'est ce qu'on se disait avec vos collaboratrices, justement. Nous, on est là pendant une semaine. Je vous le dis honnêtement, on s'éclate pas mal. Mais effectivement, moi, je suis venue en train. Alors, mon mari est venu en voiture, il nous a rejoints pour 2 jours. On en a profité pour aller à Chamonix, puisque, alors lui, il adore Chamonix. Il y a d'autres choses, comme vous disiez, à voir, dont Annecy. Et également, bien sûr, la voiture, c'est pratique pour aller un peu loin en balade. En revanche, ce matin, par exemple, on est allé voir une chèvrerie qui n'est pas très loin. Ça se fait super bien en bus, hop, 5 minutes de bus, 10 minutes à pied, et le retour, on l'a fait à pied via la forêt. Et là, c'était formidable. Mes enfants, d'abord, ne voulaient pas. Hein. Ils m'ont dit non, non, on ne marche pas et tout. Et donc, moi, j'étais très contente parce que j'avais deux objectifs atteints ce matin, la chèvrerie que je voulais voir et effectivement une balade en plus. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça d'ailleurs? Revenons-en au sujet. C'était pour dire tout simplement que effectivement on peut passer une semaine, 3 jours ici, 2 semaines, pourquoi pas, puisque en effet c'est infini en fin de compte, que ce soit l'hiver ou l'été. Là, cet été, quelles sont un petit peu les choses dont vous êtes très content, très fier, et quelles sont les choses qu'il faut absolument faire en famille, entre amis ou à deux?
Ce dont on est très fier, je pense, en un, c'est la mobilité.
Oui.
C'est-à-dire que vous êtes venu en train et c'est assez symptomatique. C'est-à-dire cet été, on a travaillé une mobilité. C'est-à-dire que les personnes, on sait qu'aujourd'hui, avec le prix d'essence, avec le coût du déplacement, on peut venir en train à un coût moindre. Mais une fois qu'on est dans la destination, il faut qu'on se démarque en proposant une mobilité. Donc, on propose une mobilité totalement gratuite entre les carreaux et Flaine, à 2 euros depuis la gare de Cluses pour venir dans la station. Et après, on a une autre mobilité qui est entre l'Arve et le Gif, c'est-à-dire entre les carreaux et Samoin et Sixte, qui permet à un coût moins, c'est-à-dire 2 euros gratuit pour les moins de 6 ans, 50% de moins, c'est-à-dire 1 euro pour les enfants de 6-12 ans, c'est-à-dire qu'une famille de 4, elle peut s'en tirer, aller à 6 euros d'aller-retour et aller passer la journée côté 6, côté Samoin, au lac Bleu, faire une activité en eau vive, revenir, ou si le papa fait par exemple du VTT, il va rejoindre sa famille qui est partie donc en bus le matin, il revient parce qu'il y a des porte-vélo, et voilà. Donc on est très content de cette mobilité douce, responsable, durable, avec un axe les carreaux Flaine gratuit, c'est-à-dire faire tous les points de départ de balade, les sentiers thématiques, les lacs de pêche, les jolis points de vue, les panoramas ou le golf, pour ceux qui le sauraient, ou aller sur Flaine qui a aussi d'autres attraits, ou également aller sur une autre vallée qui, elle, a une rivière, a deux lacs, et donc ce qui permet d'avoir une mobilité qui, pour nous, était primordiale, et c'est de cette année, aidée par la région, aidée également par les communautés de communes, et on est très content de ce pas en avant fait pour les personnes qui, soit également, ne veulent pas prendre la voiture, veulent aussi également partir d'un point un petit peu plus haut parce qu'ils ont des jeunes enfants et aller tout de suite découvrir un beau panorama. Et après, la redescente est un peu plus facile. Et ou alors, ils reprennent la navette un petit peu plus bas dans le sens descendant. Il y a tous les horaires du tourisme. Il y a assez sur la ligne, les carreaux Flaine. Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités dans la journée. Donc voilà.
Vous parliez d'une rivière. Elle se situe où, cette rivière?
C'est le Gifre. C'est une rivière, c'est la vallée du Gifre. C'est cette rivière qui part de Sixte, où il y a beaucoup d'activités autour du canyoning, du rafting, et où il y a également deux lacs, deux petits lacs de retenue qui sont le long et qui sont des lacs de baignade qu'on n'a pas. Nous, on a deux lacs, mais ce sont des lacs de pêche, voilà, et des retenues qui sont pour l'eau douce et l'eau qu'on consomme. On ne peut pas faire d'activité dedans, mais eux ont des lacs, donc étant donné que c'est complémentaire, il ne faut pas essayer de retenir à tout prix les gens. Les gens, on va dire, les carreaux, c'est un excellent camp de base pour avoir une idée de pouvoir rayonner, pouvoir changer d'activité, pouvoir changer de destination et revenir le soir. Et le soir, on a sur la place de l'ambiance, cette jolie place piétonne, on a des activités, des petites animations qui sont toutes gratuites, des spectacles, des concerts, voilà, pour toute la famille, pour tous les âges. Et c'est plutôt agréable à vivre.
Absolument. Pour parler un petit peu du village, donc je crois qu'il y a à peu près, d'après ce que je disais, 40 boutiques, plus ou moins. Village très ravissant, qui donc a été créé à peu près dans quelle tranche d'année, plus ou moins? Il y a beaucoup de chalets.
Ça. Si on part un petit peu rétrospectivement, on est les stations de première génération. On va enlever Chamonix, qui est né dans les années 1900 et qui est un peu, on va dire, incontournable, mais qui est un peu à part dans le monde de la montagne. Mais sinon, on est beaucoup de stations comme Combloux, comme Grand Bornand, comme Morzine. On est tous nés dans les années 30, avec les congés payés, on va dire 35-36. Donc nous, on a eu le premier téléski en 1938. Donc on a à peu près 90 ans de ski, un peu plus de 90 ans de ski, de glisse sur la partie hiver. Mais vraiment, on va dire que le développement s'est fait dans les années 60-70. Il y a eu un premier essor là. Et après, le deuxième essor est vraiment venu dans les années 80 avec justement cette liaison Grand Massif. Les liaisons par les remontées mécaniques avec Morillon, Samoin, Sixte et Flaine, qui a donné un nouvel essor, ce forfait Grand Massif, et cette exposition, on va dire, au monde des skieurs, avec, on va dire, à l'époque, le cinquième plus grand domaine skiable de France, et adossé à des villages avec des qualités intrinsèques très différentes, mais avec le village qu'on a au carreau, avec ses chalets, il y a quelques immeubles, mais qui ne sont pas très très hauts, des belles maisons chaleureuses. Et on n'a pas idée, quand on est au carreau, on voit cette montagne, mais on n'a pas idée que derrière, on est adossé quand même à un grand domaine skiable ou à un grand domaine estival de balade, de VTT, de VTT électrique, de parapente, de beaucoup de pratiques, on va dire, outdoor.
Tout à fait, tout à fait. Donc effectivement, un village très typique, très charmant, mais avec tous les atouts après, à la fois dans le village, mais aussi autour d'une grande station, finalement.
C'est ça, c'est-à-dire que ce soit l'hiver, on travaille aussi la mobilité. L'hiver, vous avez des navettes gratuites pour aller au ski, qui vont desservir les points les plus éloignés de la station. Donc, navette gratuite pour aller sur au départ du domaine skiable pour pouvoir profiter du ski. Mmh. Voilà, donc, c'était aussi important qu'on ait une mobilité hivernale. Et c'est vrai qu'on a les infrastructures d'une grande ville. On a une piscine couverte, on a un espace balnéo. Voilà, on a donc pour l'été, on a tout ce qui est acrobranche, luge sur rail, mountain kart. Voilà, mmh. Sur la partie hiver, on a toutes les activités comme également tout ce qui est chien de traîneau. Mmh. Voilà. Tout ce qui va être aussi également balade en raquette,
d'accord.
Ce qui est important. On a également, on dessert un foyer de ski de fond. Mm-hmm. Voilà. Donc, ce qui permet, on a aussi des pistes donc, pour tout ce qui va être ski de rando, ceux qui sont les adeptes un petit peu. Voilà, donc on a une quantité incroyable d'activités. On a également une infrastructure, un cinéma également pour ceux qui auront envie de distraire. Donc, on essaye de proposer... un maximum d'activités et d'animations pour passer, pour que le parcours client soit intéressant et que l'expérience client au carreau soit enrichissante et essayer de également le faciliter également dans le service.
Mmh, tout à fait. Alors, revenons-en un petit peu aux remontées mécaniques. On en parlait tout à l'heure ensemble. Vous êtes très fiers, je pense, effectivement, d'avoir donc restauré les remontées qui dataient de quand ? Qui dataient de...
Il avait 20 ans, il avait un peu plus de 20 ans de fonctionnement.
Okay.
Alors, on est parti sur ce qu'on appelle un reconditionnement. Un reconditionnement, il y a deux cas de figure. C'est soit, on va dire qu'une infrastructure, une remontée ou un tapis n'est pas au bon endroit et on le déplace. On en avait un qui était trop bas, qui utilisait trop d'eau par rapport au réchauffement. On l'a mis concrètement de 1100 mètres, on l'a remonté à 1600 mètres. Mm-hmm. Ça, c'est concrètement une réutilisation, on le reconditionne, on le remet ailleurs pour qu'il y ait une meilleure utilisation, une plus longue utilisation, plus intelligente, plus durable, plus responsable. Après, il y a d'autres choses qui peuvent être des achats d'occasion de remontée mécanique. J'ai deux exemples. Donc là, on a acheté un télésiège débrayable d'occasion pour remplacer notre vieux télésiège pince fixe. Voilà, donc ce qui a permis d'allonger la piste, de partir pratiquement au même endroit, mais surtout d'aller beaucoup plus haut, de desservir un peu mieux Morillon et l'accès Grand Massif, mais surtout avec un engin débrayable qui veut dire déjà plus de confort, plus de place, plus de vitesse. Donc voilà, donc une capacité d'emmener plus de monde par heure. Voilà, c'était important. Et donc, en reprenant un appareil reconditionné, non seulement vous faites des économies d'échelle substantielle, puisque on était à 6,5 millions, moins de 7 millions, entre près de 10 millions à 9.
Okay.
Mais surtout, on réutilise beaucoup de pièces. Donc, ça veut dire qu'on a une attitude responsable et durable. Mm-hmm. Voilà, ça, c'est une chose importante. Et on va dire qu'on ne mégote pas sur la sécurité, puisque toutes les pièces ont été testées et voire même changées ou mises à neuf quand c'était des choses importantes, comme le cap, comme certains galets, voilà, comme la gare de départ, la gare d'arrivée. Mais malgré ça, on fait des économies substantielles, mais on réutilise les pylônes, on a réutilisé les sièges, voilà. Donc, c'était important. Et sur notre télécabine également, on a changé le câble, et puis on a enlevé, descendu toutes les cabines, et on les a toutes reconditionnées, et vous avez l'impression qu'il est neuf.
Tout à fait. J'allais même dire, c'est les télécabines les plus modernes, les plus belles, les plus design que j'ai pu voir.
Ouais, il y a
donc
même
bravo
le logo,
en tout cas.
Qui est brodé
ah oui, c'est
sur
très chic. C'est
voilà.
très cool, honnêtement, très très chouette. Donc bravo en tout cas. Et du coup, quels sont un petit peu les projets et les beaux événements de cet été qu'il ne faudrait entre guillemets pas louper si on reste ici tout l'été avec vous?
Alors, on en a un qui arrive très vite. Donc là, je pense que... Ça sera ce week-end. Donc là, on a la Folle Furieuse qui est un événement assez sympathique à faire entre amis, en famille ou entre bandes de potes où on peut se déguiser, qui est un peu une course à handicap avec des infrastructures gonflables ou de la boue ou de l'eau. C'est un petit parcours entre 5 et 6 kilomètres en pleine nature.
Et c'est en hauteur, ça ?
Non, c'est pas très en hauteur. On va justement vers les points de vue. On passe pas loin de la chèvrerie.
D'accord.
On passe à la Pierre Alaya où on peut avoir un joli point de vue. On est en forêt, on est un peu à l'ombre. Et l'idée, voilà, c'est de découvrir en même temps les infrastructures des carreaux, de découvrir le village et de partir un petit peu sur ce plateau qui a quand même cette particularité d'être de faire une montagne douce et pas trop, on va dire, agressive et avec les sommets qui sont plus clairs, qui, quelquefois, ça peut avoir une certaine appréhension. Mmh. Donc voilà, ça, c'est le premier événement. Après, on a des événements, des grosses animations du mois d'août. Hein, on a des jours de, on a des concerts rock qui vont venir avec le Dahu Festival. On a un très bel événement qu'on aime bien, c'est Happy Family. C'est une journée complète pour l'univers des 3-6 ans. C'est gratuit, c'est 5 univers pour les 3-6 ans. Ils ont une journée rien que pour eux. Et c'est des petits mondes où ils peuvent avoir voilà, différentes activités, comme par exemple, si les petits garçons, petites filles qui aimeraient bien le sable et la pelleteuse, ben, y a tout ça. S'ils aiment le monde des châteaux, il y a ça également. S'ils aiment le monde des trains électriques, il y a ça également. Voilà.
Donc, alors, ça se passe où du coup?
Ça se passe sur la place de l'ambiance, toujours sur la place du centre du village. On a la fête des guides également, avec des activités encadrées par les guides de montagne, où on a des tyroliennes, on a des murs d'escalade, voilà. Et on terminera l'été avec notre fête qui est peut-être la plus emblématique, c'est la fête de l'alpage. Mmh. On est là au niveau de l'Héron, qui est notre endroit emblématique, c'est notre lac de pêche, qui est en même temps une ferme d'alpage où il y a du fromage qui est fait, et un petit restaurant d'altitude, où je pense que là, allez, je vais dire 99,99% de nos vacanciers passent au moins une fois. C'est notre endroit emblématique, il y a une jolie vue sur les Aravis, sur la pointe d'Areux et la pointe Percée. Et là, on fait une fête locale où on va avoir différentes activités, différents métiers mis en avant, mais également quelque chose que beaucoup nous envient, on fait un loto-bouze. Mm-hmm. Et qu'est-ce que c'est qu'un loto-bouze? Ben, un loto-bouze, c'est dans la montagne, sur un joli champ, il y a un joli pré de vaches. On va aller tracer une grille de loto qu'on numérote, et puis après, on lâche nos races abondance à l'intérieur, mmh. et on a notre maître vacher qui est là, et à chaque jolie bouse de nos vaches, il y a un numéro, et les gens gagnent. Voilà, on a un lancer de béret, on a aussi un grand 1, 2, 3 soleil grandeur nature, on a aussi sur, avec des animaux, on a aussi des concerts, voilà, on a tout plein de choses autour, sur ce, on a un petit concours de pêche, on a des personnes qui viennent préparer des plats et des pizzas, on a un four à pizza qui vient, voilà. On a plein d'activités en alpage et ça attire toujours entre 1000 et 2000 personnes là-haut et c'est sympa.
Et toutes ces personnes viennent du coup d'ici, du village ou des villages
aux alentours? Non, des environs. Maintenant, on a vraiment capté beaucoup de monde qui viennent parce qu'ils aiment l'endroit, ils ont découvert le lieu et ça vient d'un peu partout, de la Haute-Savoie également.
D'accord. Et alors, dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire pour fêter vos, combien 21 ans, c'est ça?
Moi, mes 21 ans, station, 21 ans à l'office, pas grand-chose. Les 90 ans de la station, on est en train de réfléchir un petit peu avec nos élus.
Ouais.
Parce que c'est... Alors, quand la station a 90 ans de glisse, mais la station d'elle-même n'a pas 90 ans, puisque l'été a démarré beaucoup plus tard. Alors, on est toujours en train de se dire quelle est l'année.
Elle a 90 ans quand même.
Voilà, mais elle a 90 ans quand même. Donc là, ça sera à voir sur l'hiver prochain.
Okay.
Donc, ça serait plutôt sur l'hiver 36-37, puisqu'on est né le premier. En fait, c'est la découverte qui a fait cette date-là. C'est la découverte d'un socle béton. Du téléski, puisque le téléski a mis plus de 2 ans à voir le jour, puisque c'était une nouvelle technologie, c'était avec, on va dire, l'industrie du décolletage de la vallée. Et donc, ils ont mis 2 ans entre le premier socle béton et la première perche qui a été installée, puisque c'était des archers de place. Mmh. Donc, ça a mis 2 ans. Donc, on a retrouvé un socle avec une belle inscription 1936. Ça tombait avec les congés payés, ça tombait bien, ça faisait une belle image. Donc, voilà, notre année de naissance est là. Sauf que les premières courses, c'est plutôt 1930. Le ski club, c'est 1930. Et le téléski, 1938. Mm-hmm. Inauguré en 1939. 1939, je ne fais pas de dessin. C'est ce qui se passe. Arrêt. Par contre, il a servi, c'est le petit côté de l'histoire, pour monter certains ravitaillements à la résistance. Il y a eu les Allemands qui étaient là. Enfin, voilà. On a toute une histoire au niveau de cette station. Donc, on a des choses à raconter. Après 90 ans, ça sera plus au fil de l'eau tout au long de l'hiver prochain. Des petites animations, des petits événements pour montrer les photos d'antan, ressortir, on va dire, des anciennes vidéos, des anciennes, comment on s'habillait en 1930 quand on skiait, parce que c'est quand même rigolo. Les premières courses de ski, vous n'aviez pas de remontée mécanique, donc ils montaient avec les vrais pots de phoque de l'époque, et après ils faisaient un slalom géant en haut, voilà, ils faisaient du saut sur le milieu, et puis une épreuve qui ressemble au ski nordique de maintenant, sur le bas. Mais c'est quelque chose qui nous paraît complètement insensé aujourd'hui.
Tout à fait. Alors, je rebondis un petit peu sur ce que vous venez de dire. J'ai vu aussi que vous aviez sorti, je crois, 3 bandes dessinées. Oui. Il y en a une quatrième qui sort?
Non, alors c'est l'inverse, il y en a deux et la troisième est en cours.
Ah, pardon. Et donc, racontez-nous très brièvement la genèse donc, de ce projet. La première date de quand? Et donc, racontez-nous un petit peu de quoi parlent ces bandes dessinées.
Alors, justement, ça tombe bien parce que c'est les journalistes qui... En fait, c'est une histoire que j'ai racontée, c'est une histoire qui me touche de près puisque je raconte quelque chose qui aurait pu être mon histoire. Sauf qu'on l'a décalée dans le temps pour qu'elle colle un peu mieux à l'histoire d'époque. En fait, si on regarde la bande dessinée sur l'histoire des carreaux est assez singulière. Elle a eu son essor, en fait. Le ski n'est pas arrivé à avoir un gros essor. Mais l'essor des carreaux est vraiment venu avec ce qu'on appelle les aériums, les centres de vacances et les classes de neige. Dans les années 1950, c'est vrai qu'au sortir, on va dire, au sortir de la guerre, début des années 50, il y avait besoin d'aller faire prendre l'air à ses enfants après-guerre qui avaient des problèmes asthmatiques, qui avaient des problèmes au niveau nutrition, des problèmes respiratoires. Donc, ils ont cherché et les médecins disaient qu'il fallait être à 1000 mètres ou à 1100 mètres. Et les carreaux a été choisi pour faire certains aériums et certains centres de vacances où l'éducation nationale, où les assistantes sociales, les infirmières, on commençait à dire qu'il faut envoyer les petits au grand air, NPGA, nos petits au grand air. Et du coup, on a envoyé les enfants ici, mais il fallait trouver des instituteurs, il fallait trouver des puéricultrices, des infirmières. Mais on n'en avait pas là. Donc, on s'est dit, il va falloir aller chercher dans les écoles d'infirmières en France. Et c'est comme ça qu'ils sont allés chercher dans les écoles de France, entre autres à Montendre, à La Ciotat et ailleurs, des infirmières qui sont arrivées là. Ça fait un bien fait fou parce que sinon, on était en train de se refermer sur nous-mêmes. Ça a permis d'arriver plein de jeunes et belles femmes et tout, dont mon père, par exemple, avec qui allait devenir ma future maman,
d'accord,
qui arrivait d'infirmière de Gironde. Et cette histoire, je l'ai racontée puisque j'ai lié de connaissances et d'amitié avec quelqu'un des centres de vacances, une jeune fille qui était dans un aérium, pardon, et qui avait des petits soucis de santé. Et nous, on était bien évidemment avec l'attitude, le ski club, on était en forme. Et du coup, on a fait ces échanges-là. Voilà, donc la genèse, c'était ça. Et je lui dis, ça serait bien de la raconter, surtout qu'on avait la mine qui a été tenue par les Allemands, la résistance, il y avait un petit peu tout ça. La mine a appartenu à Madame de Varins, avec Jean-Jacques Rousseau. Donc, il y avait toute une histoire avec les enfants du ski club, avec des enfants qui arrivent de l'extérieur, avec qui on peut lier l'amitié, mais qui ont des problèmes respiratoires. On peut lier avec la mine, on peut lier également avec la naissance des remontées mécaniques. Donc, ça nous a fait la naissance d'une bande dessinée, suivie de Cucherou, le dessinateur. Donc, on l'a trouvé. On a fait le tome 1 qui se passe en 1954, le tome 2 qui se passe dans les années 70, et le tome 3 se passera pour ce qu'aurait dû être les 50 ans de la station en 86, mais il y aura un rebondissement, ce qui fait que ça n'aura pas lieu, justement par rapport à l'année où on n'était pas tous d'accord. Voilà, c'est deux jeunes enfants, mais c'est toujours avec des enfants autour de l'école, autour des valeurs. Et en même temps, on raconte un peu l'histoire de la station sans l'enjoliver, mais juste raconter comment elle est née, qu'est-ce qui s'y passe, et un petit peu quelques anecdotes et avec quelques savoyards.
Eh bien, magnifique. En tout cas, on a hâte de lire ces deux tomes déjà, puis de voir donc, le troisième également qui sort. Vous avez déjà une date de prévue ?
Il sortira pour début décembre.
Ouais. Ok, parfait, parfait. Merci mille fois, Philippe, en tout cas pour toutes ces informations, ces anecdotes et ces belles histoires qui nous ont fait voyager aussi dans le temps. Et on vous dit à très bientôt, en tout cas peut-être cet hiver. Merci beaucoup.
On espère vous voir bientôt. Merci,
au revoir.